Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Un verset de psaume que chaque matin les moines disent au début de matine, et je crois que nous pouvons nous le redire en ce début de récollection. Si nous entendons la voix de Dieu, n'endurcissons pas notre cœur. Et lorsque nous faisons la sourde oreille, ou que notre cœur est comme anesthésié, ou trop encombré, trop éparpillé, eh bien l'Esprit Saint nous mord, selon la savoureuse expression d'un père abbé cistercien. Quand un moine venait le voir, il demandait souvent en cours d'entretien, « L'Esprit Saint vous a-t-il mordu ?» Alors le moine est un peu dérouté. Cette douce morsure intérieure de l'Esprit Saint pour nous réveiller dans notre routine. Alors, depuis notre baptême, notre âme est comme un ciel où Dieu demeure et dans lequel il fait briller trois grandes étoiles, la foi, l'espérance et la charité. Trois dispositions intérieures que Dieu infuse en nous lors du baptême et qui nous permettent d'entrer en contact avec le bon Dieu. Trois dispositions qui peuvent nous grandir et qui peuvent aussi rester atrophiées, rester petites. Trois étoiles qui peuvent briller plus ou moins. Et parfois il y a des nuages qui les empêchent de se déployer dans notre âme. Alors que cette journée puisse être comme un vigoureux mistral. En Provence, oui, il y a un beau soleil bleu, mais il y a un mistral froid, mais qui nous purifie toujours l'atmosphère, et grâce auquel on a une splendide luminosité. Qu'il puisse y avoir comme un mistral intérieur qui nettoie le ciel de notre âme. Alors nous allons commencer pour cette première conférence avec la foi. Je parlerai de la foi surtout dans la vie conjugale. Et en commençant tout d'abord par faire une analogie entre le mariage, l'alliance des époux, et puis la foi qui est comme une alliance entre Dieu et l'âme. Autrefois, dans des anciens rituels de mariage, on demandait « Monsieur un tel, ici présent, voulez-vous donner votre foi à mademoiselle une telle ?» C'est beau cette expression, donner sa foi, faire confiance à la parole, à la promesse d'autrui. Alors bien sûr, là il s'agissait non pas de la foi théologale, mais d'une foi mutuelle qui scelle l'alliance du mariage. Eh bien, analogiquement, la foi théologale, croire en Dieu, c'est pas croire en une doctrine, en une série de dogmes, mais c'est croire en quelqu'un, Dieu qui se révèle dans le Christ. La révélation, c'est pas un bureau de renseignement qui nous envoie des messages en nous disant « voilà ce qui se passe dans le ciel et voilà comment est le bon Dieu ». La révélation, c'est pas un discours, mais c'est une présence, c'est quelqu'un qui se fait connaître, qui se dévoile et qui attend une réponse. La foi est d'abord un don de Dieu. Il ne suffit pas de connaître le catéchisme et toute la doctrine révélée. Il faut qu'en même temps, Dieu infuse dans notre âme un élan de confiance pour adhérer à ces vérités qui sont un peu folles, qui ne sont pas à notre portée, qui sont surnaturelles, au-dessus de notre nature. Et cet élan que Dieu infuse en nous, cet élan de foi, de confiance, nous sommes libres de l'accueillir, nous sommes libres d'y répondre ou au contraire de le refuser. Donc vous voyez, il est question d'un don de Dieu, d'une libre réponse de l'homme, et donc d'un échange et donc d'une alliance. Deuxième rapprochement, eh bien c'est qu'entre époux, le oui du mariage, il peut être plus ou moins fort, plus ou moins confiant. Il y a des degrés de oui. Et puis il peut et il doit, j'espère, croître. C'est-à-dire qu'on puisse dire, ben, aujourd'hui, je te fais encore plus confiance que le jour de notre mariage. Il peut aussi être abîmé, lui, par un petit mensonge, par une petite parole blessante, par des habitudes un petit peu individualistes de chacun, chacun dans son coin. Il peut, hélas, être brisé par une grave perte de confiance, et il peut, heureusement, renaître, même après une grave brisure. Eh bien, analogiquement, il y a différents degrés de foi. Je viens de célébrer la messe, vous venez de communier. Bien sûr, quand je tenais l'hostie, je croyais que c'était Jésus vraiment présent, que le ciel s'ouvre, que son acte d'amour par lequel il a sauvé le monde est réactualisé, est rendu présent, et que ça diffuse des grâces sur toute l'Église, tout le corps mystique. Je le crois, mais en fait, je ne le crois pas assez. Sinon, je serais bouleversé. Sinon, je serais comme le curé d'Ars. Je tiens l'hostie en disant, maintenant, Jésus, je te tiens, je ne te lâche plus. Je serais... On croit, mais on ne croit pas. Ou pas assez. J'aime bien cette phrase de ce papa qui vient trouver Jésus pour guérir son fils. Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Marc 9, 24. Je crois, mais je ne crois pas. Pas assez. Et puis, troisième rapprochement, je crois que la difficulté de la foi est la même que la difficulté du mariage. Dans les deux cas, la difficulté, c'est l'humilité. Pour la foi, c'est évident, la foi, c'est une préférence permanente donnée à une autre lumière que la mienne. Bon, ça, plus on a une lumière forte, plus on est intelligent, plus on est brillant intellectuellement, plus ça va, plus on est haut, plus on est grand, plus il va falloir se baisser davantage. Et parce que l'intelligence la plus géniale et la plus brillante ne peut pas arriver à Dieu, Trinité, à la vie éternelle, elle peut juste arriver à, il existe un Dieu créateur auquel tout est suspendu. Mais du coup, ça demande une certaine déroute quand même de l'intelligence humaine en faveur de la confiance à un autre qui se révèle. La foi n'est pas un saut aveugle, il est raisonnable de croire, mais notre esprit doit quand même capituler d'une certaine façon. Accepter une lumière qui ne vient pas de moi. Accepter de perdre pied. J'aime bien le titre d'un livre qui s'appelle d'un dominicain, un père Molinier, « Le courage d'avoir peur ». En général, c'est le courage, c'est, on a l'impression que ça consiste à ne pas avoir peur. Et bien là, non, le courage d'avoir peur, c'est le courage de perdre pied. Le courage de ne pas rester dans le petit bain, le courage d'aller dans des vérités qu'on ne va pas du tout maîtriser. Quand je célèbre la messe, je suis complètement dépassé, complètement perdu, complètement petit, complètement... Voilà, ça me dépasse. Je prononce les paroles du Christ de la consécration, mais je ne maîtrise rien du tout. Donner une préférence à la dimension passive de notre esprit, qui ne maîtrise pas, mais qui souffre et qui s'incline. Donc la foi demande de s'abaisser, de se faire petit. Et dans le mariage, je crois que c'est pareil, la difficulté. Vous avez plus d'expérience que moi. Alors quand même, j'espère que monsieur l'abbé ne m'écoute pas, mais qu'il est reparti. Les moines ont un petit privilège, bon, c'est que nous, la vie commune, on l'a du matin jusqu'au soir. On fait tout ensemble. On prie ensemble, on mange ensemble, on se promène ensemble, on travaille ensemble. Et donc, il faut se supporter dans les petites tracasseries du quotidien. Quand c'est tout. Et puis nous, il n'y a pas trop d'échappatoire. Hein. On ne part pas pour un petit voyage d'affaires ou pour un... Enfin, si, là, j'ai un voyage d'affaires. Mais d'ailleurs, ça fait du bien de sortir. J'aime beaucoup mes novices, mais je suis content de ne pas les avoir pendant 4 jours aussi. Et oui, quand un novice vient frapper à ma porte, à la façon dont il frappe, je sais lequel c'est. Ils sont 7, hein, pourtant. Et il y en a, c'est
ça, il y en a d'autres, c'est petit. Je ne sentais pas, puis il n'ose pas frapper, je ne sentais pas qu'il se retire, je sens qu'il revient, je sens. Bon, ça encore, c'est gentil, mais ensuite, c'est dans le quotidien. On connaît toutes les petites. Petits défauts, les petites. On se frotte les uns aux autres, et puis, surtout, je pense que dans le mariage, il y a aussi une préférence qu'il faut toujours donner à l'autre, toujours tenir compte de l'autre, toujours accueillir un point de vue autre que le mien, ne pas gérer ma vie tout seul. Contrairement à ce que pensent beaucoup de jeunes filles, je pense que c'est plus confortable d'être célibataire que de vivre en couple. Alors, c'est sûr, c'est beaucoup plus triste et beaucoup plus égoïste. Mais en soi, surtout pour les hommes, un côté plus égoïste, c'est plus simple et plus confortable. Je me méfie toujours quand un frère dans la communauté se sent un appel pour la vie d'ermite. Souvent, c'est derrière un motif très noble. Ben, il y a au fait, je ne supporte plus mon voisin. Quoi, c'est ça. C'est pas l'Esprit Saint. Donc, je pense que dans le mariage, il y a aussi beaucoup l'humilité, ne pas se cramponner à son point de vue, recevoir quelque chose qui ne vient pas de moi, m'abaisser devant l'autre. Et il faut que l'autre croisse et que je diminue. Saint Jean-Baptiste. Sainte Faustine disait, Seigneur, aidez-moi à laisser triompher mes sœurs. Triompher mes sœurs. Allez, je le laisse triompher, je la laisse triompher, je ne réponds pas, je ne réagis pas. Et pas seulement extérieurement, mais même dans mon cœur, même intérieurement. Écouter vraiment l'autre, ça c'est rare. C'est relativement fréquent que, allez, bon, je la laisse parler, je sais ce qu'elle va me dire, je suis charitable, je dis rien, j'allais. Mais en fait, c'est pas ça, écouter. Parce qu'à peine elle a dit deux mots, que je suis déjà intérieurement en train de construire toute ma réplique. Ou je sais déjà ce que je vais lui répondre, elle a pas à peine commencé sa phrase. Non, je suis disponible intérieurement, je ne construis pas ma réponse, j'essaye de comprendre ce que dit l'autre, d'accueillir. Et de voir ce qu'il y a de juste, ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de profond, ce que je ne vois peut-être pas. Homme, je le connais par cœur, je sais très bien ses dates, je sais que son corps, je sais qu'il vient. Non. C'est horrible de s'enfermer l'un l'autre comme ça, tout de suite en mettant une étiquette. On peut changer, on peut évoluer. On parlera de ça tout à l'heure, hein, avoir un regard d'espérance l'un sur l'autre. Pour l'instant, on est dans la foi. Alors, deuxième partie, foi en son sacrement de mariage. Je passe vite parce que vous connaissez tout cela. Je pense important de garder un regard de foi sur son conjoint, mon mari, mon épouse. N'est pas celui ou seulement celui ou celle que j'ai choisi pour fonder une famille, avoir des enfants et m'engager pour toute la vie. Ça, c'est le mariage civil. C'est déjà grand, déjà beau. Regard de foi, c'est-à-dire quelque chose qui ne se voit pas avec ces yeux-là, qui se croit avec les yeux de la foi. Mon conjoint est celui que Jésus m'a confié et me reconfie chaque jour. Croire que nous sommes époux, mais dites-vous que c'est aussi surnaturel que moi, je suis obligé de croire que je suis prêtre, et c'est pas évident. Moi, j'ai l'impression d'être un mec normal, enfin, j'espère que ce sera déjà ça, mais non, je suis pas un mec normal, j'ai en moi le pouvoir de pardonner les péchés, de consacrer l'hostie, mais je dois croire que je suis prêtre, c'est pas évident. Et on peut le croire plus ou moins. Croire que vous êtes époux. Croire qu'il y a le Christ sans cesse présent derrière mon époux, mon épouse. N'oubliez pas qu'il y a eu un sacrement. Donc un sacrement, c'est un miracle, c'est une transformation. Un sacrement, c'est rien n'a changé, tout a changé. Rien n'a changé extérieurement, tout a changé intérieurement. L'hostie, j'ai rien vu changer tout à l'heure en célébrant la messe.
Pourtant, tout a changé. C'est plus du pain, c'est le corps de Jésus. Un petit enfant baptisé, un petit garçon, une petite fille, tout change. Intérieurement, quelque chose de Jésus qui est mis en lui devient enfant de Dieu. Rien ne change extérieurement. Et pour vous, le Christ Jésus s'engage dans votre, s'est engagé avec vous dans votre couple. Il est présent, je dois toujours regarder mon époux, mon épouse en croyant que Jésus est derrière lui. Tout ce que je fais pour mon conjoint, ça va droit à Jésus. Jésus veut se servir de l'un pour aimer l'autre, pour pardonner à l'autre. Ce que vous faites l'un pour l'autre va droit à Jésus. Jésus vous dira le dernier jour, il vous demandera, qu'as-tu fait de celui ou celle que je t'ai confié? Et il vous dira, j'étais découragé, tu m'as réconforté, j'étais fatigué, tu m'as aidé, j'étais humilié, tu m'as redonné confiance. Et vous serez étonné, vous direz, mais Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu découragé, fatigué, humilié? Chaque fois que tu l'as fait à ton époux, à ton épouse, c'est à moi que tu l'as fait. C'est encore plus vrai entre conjoints que envers le prochain. Et donc au moment où vous avez dit votre oui, eh bien votre alliance, votre petite alliance entre un époux et une épouse, un époux, une épouse, c'est tout de suite trouvé, relié, intégré, greffé sur la grande alliance du Christ et de l'Église. Quand Dieu voit un chrétien qui souffre, il voit Jésus qui souffre, il voit quelque chose de la passion de Jésus, un malade à l'hôpital, une personne qui a un cancer, c'est la passion du Christ qui continue. Quand Dieu voit un prêtre, il voit quelque chose de Jésus, bon pasteur, qui enseigne, qui pardonne. Quand Dieu voit un moine qui taille la vigne ou qui ramasse les olives, il voit quelque chose de Jésus menant sa vie cachée. Quand nous prions la nuit, il voit quelque chose de Jésus qui monte à l'écart sur la montagne et passe la nuit en prière. Eh bien, quand Dieu voit deux époux qui prient, deux époux qui suivent ensemble une récollection, qui se serrent les coudes dans les épreuves de la vie, qui redisent oui ensemble à telle épreuve commune, familiale ou telle inquiétude, et il voit quelque chose de l'amour de son fils pour l'Église. Saint Jean-Paul II dit « une parcelle du même mystère ». J'aime beaucoup cette expression, parce qu'une parcelle c'est à la fois tout petit, ridicule, insignifiant, mais en même temps c'est pas une comparaison. C'est une vraie participation réelle. Et il y a de rares moments dans votre vie où le voile de la foi devient un peu transparent. Comme moi, il y a eu de rares moments où j'ai un tout petit peu senti que j'étais prêtre. Un tout petit peu senti que, oulala, il s'est passé quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout, je ne m'y attendais pas. J'ai dit une parole toute banale à une personne en me demandant comment elle s'appelait. Je m'appelle Claudine. Bah, écoutez, je prierai pour vous. Paf! Elle a changé de vie, elle s'est convertie, ça l'a bouleversée. J'ai pas fait exprès. Oula, attention, je suis prêtre. C'est vrai, je vais m'oublier. Jésus m'utilise, je suis son instrument. Oula, ça m'aide après à marcher dans la nuit de la foi pendant 10 ans. Il y a du besoin quelquefois, le voile de la foi devienne un tout petit peu transparent. Et il faut qu'il y ait ça aussi, essayez de relire vos années de mariage, voir s'il n'y a pas eu, quelquefois sans le faire exprès, l'un dit une parole à l'autre, mais pourquoi tu réagis toujours comme ça? Pourquoi tu reviens toujours sur cette blessure passée? Pourquoi? Ou je ne sais pas, ou un encouragement, ou une... Et puis cette parole fait son chemin, travaille, et puis tout d'un coup, l'autre après coup, se dit, mais en fait, c'est pas simplement mon mari, c'est pas simplement ma femme qui m'a dit ça. Ça vient de plus loin, ça vient de plus haut. Et d'ailleurs, elle a même pas fait exprès. Elle l'a dit un peu. J'ai la grâce d'accompagner un homme veuf et qui me dit, mon père, j'ai vécu 30 ans de mariage. Ce n'est pas parfait, hein, j'étais comme dans beaucoup de couples. Voilà, bien sûr, il s'aimait profondément, mais voilà, ça grinçait quelquefois un petit peu. Et puis, pourtant, il me dit aujourd'hui, là, mon père, je n'arrive plus à vivre seul. J'ai même plus envie de vivre seul. J'ai l'impression d'avoir été amputé d'une partie de moi-même. Elle était devenue ma moitié et je ne sais plus vivre seul. Et j'ai même pas envie de lire un beau livre, de faire un pèlerinage, parce que je ne peux pas partager avec elle. J'ai qu'une envie, c'est de partir pour la rejoindre. Eh bien, je lui ai dit, vous avez expérimenté, même si c'est que maintenant que vous en prenez conscience. Parce que ce qui est étonnant, c'est que ce n'était pas un couple forcément plus particulièrement harmonieux, rayonnant et tout. Oui, c'était un couple uni, mais c'était un couple normal. Qui s'aimait et qui se disputait. Couple normal. Eh bien, et je lui ai dit, vous avez expérimenté combien votre épouse, elle fait partie de vous, elle est quelque chose de vous, vous ne pouvez plus vivre sans elle. Eh bien, vous entrepercevez, le voile de la foi est un peu transparent, que ce que ça veut dire que nous sommes quelque chose de Jésus, nous sommes son épouse, nous sommes les membres de son corps, nous sommes quelque chose de lui. Il nous regarde comme l'Église, comme son épouse. Il dit à Saul sur le chemin de Damas, pourquoi me persécutes-tu? Mais je ne te persécute pas, je ne vais pas quitter, puis je vais persécuter les chrétiens de Damas. Tu touches aux chrétiens de Damas, tu touches à ma femme. Ils sont quelque chose de moi. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. You did it to me. C'est Mère Teresa qui répétait ça tout le temps. Non, on le sent comme ça sur ses doigts. Donc, foi en votre sacrement de mariage, vous n'avez pas reçu une force, une grâce le jour de votre sacrement de mariage, mais voici ce que dit le catéchisme de l'Église catholique en reprenant le dernier concile. Le sacrement de mariage n'est pas une chose ou une force, car en réalité, le Christ lui-même vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement de mariage et il reste avec eux. Vous êtes trois. Le jour de votre mariage, Jésus, c'est d'abord une promesse de Jésus avant d'être une promesse des époux. C'est Jésus qui vous promet, je suis avec vous toujours. Là où vous irez, j'irai aussi. Vos amis seront mes amis, vos problèmes seront mes problèmes. Votre croix sera la mienne, vos larmes seront les miennes. Alors, je vous invite à faire une relecture de votre vie, mais attention, pas comme on aime ça aujourd'hui, une relecture purement humaine que psychologique, comme si tout reposait que sur des facteurs naturels ou des influences humaines. Parce que là, on évacue la providence, on évacue le troisième invisible présent dans le couple, le Christ, qui est à l'œuvre. Ça, c'est une relecture païenne. Il s'agit d'une relecture théologique de votre vie, un peu comme une histoire sainte, avec une traversée de la mer Rouge, ensuite on tourne en rond dans le désert longtemps, puis avec différentes libérations. Une relecture surnaturelle. C'est juste l'époux, l'épouse dont j'avais besoin pour m'obliger à équilibrer mon tempérament, pour obliger à corriger certains défauts. C'est peut-être pas celui ou celle avec qui c'est le plus facile ou le plus fusionnel, mais est-ce que ça m'aurait vraiment fait progresser ? Quand on passe par un moment difficile dans le mariage ou dans la vie religieuse, il y a la tentation de se dire « c'était une erreur, j'aurais jamais dû m'engager ». Pourtant, si on a une forte conviction, une foi solide dans la providence de Dieu, cette providence qui nous a conduit à poser ce choix, et cette même providence, du coup, qui sait comment agir, même s'il y a eu une erreur ou une imprudence de notre part.
Vous voyez que c'est au fait toujours une question de foi. Ça suppose une forte conviction que Dieu s'occupe de nous, même si notre vie semble ne pas être ce que nous avions espéré. Croire à l'action de Dieu dans notre vie, même à travers de nos erreurs, de nos défaillances, même s'il y a eu une légère imprudence, on s'est engagé très jeune. La providence, c'est comme le GPS. Si vous vous trompez de chemin et tout, ben, recalcule. Le bon Dieu intègre nos erreurs et nos bêtises et nos... dans sa providence. Et il leur donne une possibilité de fécondité. J'aime beaucoup dire que Dieu est un maître dans l'art du recyclage. Il sait utiliser tous nos déchets. Il profite même de nos côtés négatifs pour nous sanctifier. Et ça, c'est extrêmement... On rentre presque déjà dans le topo de l'espérance, par lequel je terminerai cette journée. Il n'y a pas de souffrance qui ne puisse devenir féconde, qui ne puisse servir à notre purification, à notre sanctification. Et encore une fois, imaginez, ce n'est pas votre cas, sûrement pas, mais imaginez un mariage malheureux. On s'est précipité sans trop se connaître soi-même, et tout le reste de la vie qui devient un purgatoire. Ben, une telle souffrance semble stérile, absurde, ça n'a rien à voir avec le bon Dieu, c'est ma faute. Tout le monde m'avait dit non, il fallait que j'étais dans. Eh bien si, Dieu est présent dans cette souffrance. Dieu agit. C'est lui qui prend la responsabilité des conséquences de cette erreur. C'est magnifique. Ce qui semblait une souffrance absurde, inutile, est transformé par lui en une croix qui sauve. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément facile, mais ça veut dire que ce n'est pas désespérant. Tout, alors ce n'est pas forcément une difficulté de conjugale, ça peut être un échec professionnel, ça peut être une humiliation, ça peut être un deuil, ça peut être la vieillesse, ça peut être une maladie physique, ça peut être des fragilités psychologiques qui quelquefois se manifestent qu'après 40 ans. Et ça allait bien au début, et puis ben, y a des fragilités, il y a des angoisses, il y a des anxiétés, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, soit à cause d'événements extérieurs, soit à cause... On est fragile, hein. Nous sommes tous fragiles. Eh bien, cela est assumé et repris par la Providence. On ne doit jamais souffrir en vain. Tout est utilisé par Dieu, pourvu simplement que nous ne nous y opposons pas. Même nos péchés, pas simplement les blessures de la vie, les difficultés, les déconvenues. Et c'est ce qu'on chantera durant la vigile pascale, « Heureuse faute ». Au vraiment nécessaire péché d'Adam. Même une infidélité, même du temps gaspillé, même tout ça, le bon Dieu peut s'en servir pour toucher notre âme et nous faire parvenir juste là où il voulait, que nous devenions le saint qu'il attend de chacun d'entre nous. Donc je crois que quand une épreuve tombe sur nous, au lieu de dire « Oh là là, le bon Dieu, il m'abandonne », c'est l'inverse, le bon Dieu s'occupe de moi, là. Le bon Dieu, il me travaille, le bon Dieu, il m'attend. Le bon Dieu, c'est là qui veut réaliser le saint que je suis appelé à devenir de toute éternité. Et je crois que tôt ou tard, dans toute vocation, d'une façon ou d'une autre, c'est pas forcément par un drame, hein. Ça peut être simplement qu'on... Voilà, l'impression de stagner, de ne pas arriver à vraiment progresser spirituellement, de ne pas arriver à sortir d'une routine ou d'une mauvaise... Enfin, d'une quelque chose d'un peu... Une relation conjugale un peu moyenne, un peu pas voilà, il n'y a pas une profonde communion. Ou ça peut bien sûr être plus... Certaines épreuves plus fortes, un enfant qu'on n'arrive pas à cerner, et qui nous échappe, et on sent qu'il est influençable, qui prend une voie, qui est, voilà, et on est dépourvu, on ne sait pas comment faire. Et donc je crois que tôt ou tard, il y a un jour où, qu'on soit moine, ou qu'on soit marié, ou qu'on soit prêtre, il y a un jour où on voit un peu la passe, où on touche ses limites, sa fragilité. Et on a l'impression d'être dans une impasse. Je ne vais jamais y arriver. Qu'est-ce que je vais devenir? Et ces moments difficiles sont vraiment des moments de grâce, des moments où Dieu nous visite, où Dieu n'est pas loin. Alors, le diable aussi n'est pas loin. Hein. Donc, toujours ce risque de ou bien basculer dans le cœur de Dieu, ou bien, et à ce moment-là, on franchit un seuil en avance, hein, ou bien basculer dans le découragement. Papier de tous les côtés, mes novices me se moquent de moi à chaque fois que je dois faire une conférence. Je cherche un texte de Benoît XVI, le voilà. Et qui dit que je pense que tous, il y a un moment où, comme Saint-Pierre, on marche sur les eaux. On doit marcher sur les eaux. C'est-à-dire qu'on dit, oulala, là, je ne sais pas comment ça peut passer, je ne sais pas comment je peux faire. L'eau, ça ne tient pas. Comment Saint-Pierre, il fait pour quitter la barque et poser son pied? Ça ne va pas tenir. Jésus lui dit, viens. C'est pas Jésus qui dit ça, c'est Saint-Pierre qui commence, il est toujours un peu téméraire. Et quand Jésus dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur », en rejoignant ses disciples qui sont sur la barque, c'est Saint-Pierre qui lui jette ce défi. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus le prend à la lettre, « Viens, tu l'as dit, vas-y, fais-le. » Et il le fait. Et il commence à marcher sur les eaux. Mais seulement, voyant le vent, il eut peur et commença à s'enfoncer. « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tend la main. Jésus est bon, on aurait pu lui dire « Bah, c'est toi qui l'as dit, papy. » Non. Et Benoît XVI a un commentaire admirable. Il dit « Plus d'une fois, chacun d'entre nous a sans doute vécu la même chose que Pierre, marchant sur les eaux à la rencontre du Seigneur. » S'apercevant soudain que l'eau ne le soutenait pas et qu'il allait se noyer. Et comme Pierre, nous avons crié « Seigneur, sauve-moi !» Et lui nous a pris la main et nous a donné, écoutez bien, un nouveau poids spécifique. Un poids, normalement le poids ça enfonce. Mais là, le poids, un poids spécifique qui nous tire vers le haut. Et Benoît XVI a une expression splendide, il dit « la légèreté qui découle de la foi ». On a l'impression que la foi donne une gravité, rend les choses lourdes, on aura à rendre compte, on aura... il y a le purgatoire, l'enfer, ciel, etc. C'est la légèreté qui découle de la foi, c'est au contraire beaucoup moins lourd, on n'est pas seul, Jésus est dans notre couple. La Providence intègre tout, même nos bêtises. Et on n'est pas seul responsable de nos enfants. C'est Dieu qui nous les a confiés, c'est Dieu qui a allumé cette petite vie, c'est lui l'ultime responsable. Nous, on fait ce qu'on peut, on est ses instruments, mais on est pauvre, et on accepte d'être pauvre, et on accepte de ne pas pouvoir tout faire. La légèreté, ça rend tellement plus léger d'avoir la foi. C'est un poids, il faut avoir beaucoup de compassion pour les personnes qui n'ont pas la foi. La vie est lourde. Même si tout va bien, s'il arrive une maladie, si on perd son emploi, ou si on ne se comprend plus dans le couple, il n'y a pas de recours possible, ils ne sont que deux. Ils ne sont pas trois. Il n'y a pas la foi en présence de Jésus. Et donc, s'il avait eu la foi, Saint-Pierre, s'il n'avait pas pris peur en regardant sous lui, il aurait eu ce poids spécifique qui le tire vers le haut et qui ne l'aurait pas fait s'enfoncer dans l'eau. Alors il me reste 5 minutes et je voudrais en arriver à la prière. Comment manifester, exprimer visiblement que vous êtes trois et pas deux depuis que vous avez reçu le sacrement de mariage? Eh bien, c'est toute l'importance de la prière conjugale. Même très courte, même juste un Notre Père, un Je vous salue Marie, même si c'est dit un peu mécaniquement, mais ça c'est toujours possible, même à 1h du matin, on se couche à 1h01, c'est pas grave, on n'est plus à une minute près. Mais c'est une petite goutte qui tombe chaque soir et qui vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas deux, vous êtes trois. et surtout vos enfants grandissent, ils vont s'envoler du foyer. Quelle tristesse, il n'y a plus de prière ensemble. Ah, il y avait la prière familiale où vous étiez avec vos enfants, mais voilà, les enfants sont partis, et alors il n'y a plus jamais que vous priez vraiment tous les deux seuls ensemble, comme le jour de votre mariage, vous étiez tous les deux en face de Jésus. Et on a besoin de ce petit rappel extérieur. L'idéal, mais c'est l'idéal, et il faut en demander la grâce à Dieu, et qui serait très beau, bon, chacun sa grâce, chacun... mais je trouve magnifique un couple qui se lève tous les matins, 5 minutes, 10 minutes, ou 15 minutes, ou plus tôt que d'habitude, et qui ensemble prennent un temps d'oraison. Je trouve ça très ajusté, parce que ça, c'est pas fusionnel, ça respecte beaucoup. Chacun fait complètement différemment dans son cœur. Il y en a un qui a besoin de réciter doucement une prière qu'il aime, l'autre qui est soit complètement en silence, soit qui a besoin du chapelet, soit qui lit un peu l'évangile, soit qui est simplement en ouvrant son cœur, et en faisant silence et en croyant à l'action de Dieu qui agit en lui. Donc chacun prie à sa façon, mais ensemble. Et chacun est connecté au même Jésus. Chacun peut parler de l'autre à Jésus. Donc on est à la fois ensemble et on est à la fois sans être fusionnel, avec beaucoup de respect. Alors je termine justement par quelques, dans ce topo sur la foi, par quelques petites remarques vis-à-vis de l'oraison. L'oraison, cette prière où simplement je me mets en présence de Dieu, où je crois qu'il agit en moi, et c'est là où l'obscurité de la foi se fait le plus sentir. Quand je dis mon chapelet, je sais où j'en suis. Quand je fais le chemin de croix, je suis à la 9e station, il en reste encore 5. Voilà. Un pèlerinage, je sais combien j'ai fait de kilomètres, combien il en est. Mais là, je suis là tout pauvre, tout vide, et c'est éprouvant. Parce que j'ai l'impression de rien faire. Et forcément, c'est la prière où on est le plus distrait. Parce qu'on n'a pas de porte-manteau pour accrocher son esprit quelque part. Alors, l'esprit, c'est là où on divague le plus. C'est la prière qui nous humilie le plus. Mais n'ayons pas peur de cette pauvreté, de ce vide. Parce que c'est le ressenti le plus authentique. Le ressenti, le seul à qui j'accorde la plus d'importance dans la prière, c'est pas votre ressenti de ferveur ou de transport ou d'une paix qui tout d'un coup est chaude. Non, c'est justement de ressentir la transcendance de Dieu, de ressentir qu'on est tout pauvre, qu'on n'est pas spontanément de plein pied avec Dieu et qu'on est là tout bête et tout vide et tout... Et tout sec, quoi, et qu'on n'a rien à dire. N'ayons pas peur des prières arides ou distraites. Dire oui à cette pauvreté, sans tristesse, sans découragement. Se mettre simplement à la disposition de Dieu, comme un tient son âme, comme un drap qu'on fait sécher au soleil, comme une toile devant l'artiste. Notre union à Dieu se réalise dans la foi. On ne sent rien, on ne voit rien, on n'entend rien. On ne peut pas expérimenter des vertus théologales. On n'a pas de belles pensées sur Dieu, pas forcément. Si on en a, tant mieux. On ne ressent pas forcément une paix intérieure. On peut, au bout d'un quart d'heure, être encore plus énervé qu'avant le départ. Mais ce n'est pas grave. On est devant Dieu énervé. Ben voilà, mon Dieu, je suis là comme je suis. Eh bien, ce vide immense ou cette impuissance absolue, c'est précisément pour la façon la plus authentique de ressentir Dieu. Et Dieu est là, il agit en nous. Il suffit que je fasse un seul mouvement de foi, que je veux dire, mais Jésus est présent dans le tabernacle, c'est une personne, il est vivant au ciel, il est ressuscité, il est Dieu et homme, il me voit, il montre. Mais moi, je suis vide. Mais en faisant ça, cet acte de foi, je touche Dieu aussi. Immédiatement que quand je mets ma main dans l'eau, elle se mouille. C'est ça le propre des vertus théologales. Et là, Jésus admire notre foi.
c'est dit dans l'Évangile. Il admire la foi du centurion. Jésus fut dans l'admiration. Matthieu 8, 10. Ô femme, ta foi est grande. Matthieu 15, 28. Parce que lui, Jésus, il n'a pas la foi. Il voit son Père. Même dans son âme humaine, il est déjà comme au ciel. Et il sait pourtant ce que c'est qu'être homme. Il sait combien on a besoin de voir, besoin de prendre conscience, besoin de... Et il admire que nous puissions ainsi donner une pleine adhésion sans en avoir l'évidence. Benoît XVI dit que dans la prière, plus que dans toutes les autres dimensions de notre existence, nous faisons l'expérience de notre faiblesse, de notre pauvreté, de notre condition de créature, car nous sommes placés face à la toute-puissance et à la transcendance de Dieu. Là, il commente merveilleusement ce verset de saint Paul. Nous ne savons pas prier comme il faut. C'est pourquoi l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Romains 8, 26. Eh bien, dit Benoît XVI, ce manque de parole, nous ne savons pas prier comme il faut, cette absence de parole, et pourtant ce désir d'entrer en contact avec Dieu, c'est précisément la prière que l'Esprit Saint prononce en nous, fait monter de notre cœur vers Dieu. Et l'Esprit Saint devient ainsi la force de notre faible prière, la lumière de notre prière éteinte et le feu de notre prière sèche. Alors, n'ayons pas peur des prières laborieuses et essayons d'expérimenter l'aridité paisible sans se décourager.